Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international, Guillaume Lavoie.
Cette fuite de gaz au cœur de la mer Baltique suscite plusieurs questions. Est-ce un accident? Est-ce du sabotage de la part des Russes? La question se pose. Guillaume Lavoie, qu'est-ce qui se dit à travers le monde là-dessus?
Bonjour Yasmine. On est vraiment dans quelque chose où, très franchement, j'ai vraiment fait le tour là, pour voir. J'ai plus de points d'interrogation pour vous que de réponses claires. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux méga, on dit des pipelines, mais dans les faits, c'est des gazoducs, qui partent de la Russie dans la mer Baltique pour rejoindre directement l'Allemagne. Et ils ont été construits avec la volonté réelle de se passer de l'Ukraine et de la Pologne, essentiellement. Parce qu'avant, il y avait le grand détour par le sud. On disait, on va aller direct en Allemagne. Alors, il y en a deux. Il y a le Nord Stream 1, puis le Nord Stream 2, le 1 était là depuis longtemps, des milliards d'investissements, puis le 2 devait, juste avant l'invasion de l'Ukraine, être inauguré. Et dès que l'invasion de l'Ukraine est arrivée, puis ça c'est tout à l'honneur des Allemands, ils ont dit, on n'enlève pas le bouchon de notre côté, arrangez-vous avec vos troupes. Alors là, à trois endroits, à peu près en même temps, il y a trois méga-fuites, là, imaginez, vous avez dans la mer, là, une espèce de bulle de gaz qui sort, là, c'est très, très impressionnant. C'est des pilotes en avion de chasse qui l'ont vu au départ, là, donc c'est assez gros. Et trois fois à même place, à 70 mètres de profondeur, c'est quand même saisissant, là. Et là, on se dit, bon, mais un accident, ça arrive. Sauf que, commençons par enlever les possibilités, là. Il y a, en Suède, il y a un institut de sismologie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ou des trucs comme ça. Ils disent non, c'est vraiment... Je peux pas vous dire tout de suite que c'est du sabotage. Ce que l'on semble savoir très clairement, c'est que c'est pas une cause naturelle, c'est une cause humaine. Est-ce que c'est un accident de travail? Il n'y avait pas de travaux là, il n'y a rien. Et là, on a enlevé, là, comme toutes les thèses, on fait ça par élimination, donc c'est pas un tremblement de terre. Il y a dans la mer Baltique un paquet de dépôts de munitions de la Deuxième Guerre mondiale. On savait pas quoi faire avec, on mettait ça dans le fond de la mer. Mais ça explique pas les trois bris majeurs en même temps, pas au même endroit. C'est encaissé dans le béton, là. Personne s'est enfergé dans le tuyau comme ça, là. Alors, c'est comme trop complexe. Fait que là, je suis obligé de vous parler du mot en S, c'est-à-dire sabotage. Et là, tout de suite, la première chose avant de savoir sa faute à qui, c'est il y a du gaz qui passe théoriquement là-dedans et qui permet de chauffer l'Europe. C'est un peu comme si la ligne d'électricité entre Montréal et la baie James était coupée. Là, on voit tout de suite le drame. Mais il n'y a pas d'impact. C'est ça qui est particulier parce que le deuxième pipeline, lui, n'a jamais été inauguré. D'ailleurs, le drame, c'est que à l'intérieur, c'est pas du gaz naturel, c'est du méthane. C'est ça que l'on prend pour faire des phases de test. Alors, la catastrophe environnementale, on dit, bon, le gaz naturel fait des GES. Le méthane, c'est une multiplication de GES par rapport au gaz naturel ordinaire. Alors, c'est très grave. Et le premier, ben, les Russes, vous vous souvenez le trouble de turbines qui traînait au Canada, puis
ben oui.
On passe par-dessus l'embargo. Bon, ben, c'est l'autre pipeline, le numéro un, qui, lui, était pas mal fermé. Fait qu'en gros, les réservoirs allemands de gaz sont pas mal pleins. Ça n'a pas d'impact sur l'approvisionnement de l'Europe maintenant, ce qui complexifie encore plus. Parce que si les Russes avaient voulu fermer le pipeline juste pour dire, ben, vous en aurez pu tant que vous appuyez l'Ukraine, ils n'étaient pas obligés de se faire sauter pour autant, là. Il y a encore un robinet à l'autre bout, là.
Mais alors, cette incertitude, Guillaume, là, sur qui l'a fait, c'est dû à quoi, comment ça s'est fait, ça doit perturber beaucoup, tant d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue énergétique, que d'un point de vue militaire et économique.
Énormément, parce que la chose que les marchés, les investisseurs détestent le plus, c'est les points d'interrogation. On dit en anglais, le capital est un coward, est un...
Lâche.
Un lâche, un peureux. Alors, dès que ça brasse un peu, là, je veux m'en aller. Alors, on ne sait pas c'est qui, mais analysons plutôt, là, faisons un bon Colombo de nous-mêmes, là, à qui profite le crime. Alors, évidemment que personne n'a dit c'est la Russie, mais disons, qui sont dans le portrait robot un peu, ça pourrait être une opération qu'on appelle en anglais false flag, c'est-à-dire que je m'arrange pour créer une fausse attaque contre moi. Peut-être que ça pourrait permettre à Vladimir Poutine, qui est un peu en train d'échapper de sa superbe face à son peuple, de faire exploser quelque chose chez lui pour dire, voyez-vous, les autres nous attaquent. En passant, Poutine avait déjà fait ça parce qu'il voulait attaquer la Tchétchénie, avait même fomenté ou commandité ou organisé une attaque sur le territoire russe en disant, mais c'est les Tchétchènes. Une des choses que ça va faire, c'est que ça inquiète tellement, imaginez le prix du gaz, là, parce que c'est pas tant le pipeline qui n'était pas particulièrement important maintenant, mais là, la grande question d'Europe, c'est quel est le prochain pipeline? Et là, on se dit, est-ce que nos infrastructures d'énergie, lignes de transmission, postes de transport, de transformation, autres pipelines, gazoducs, est-ce que ce sont toutes des cibles potentielles? Et là, il y a du monde nerveux en Europe, et là, soudainement, là, on regarde nos infrastructures et on se dit, un peu comme des réflexions qu'on a peu chez nous, si quelqu'un attaquait les lignes d'Hydro-Québec, il attaque l'économie du Québec. Alors, est-ce que c'est une manière de montrer qu'on est capable de le faire ailleurs? Est-ce que c'est la compagnie Gazprom, propriété de la Russie, gérée par des oligarques, qui veut se dire, bon, ben moi, je veux éviter de payer la pénalité parce que j'ai pas fourni le gaz, hein, ça a explosé, c'est toujours même pas de ma faute? Ou est-ce que c'est la Russie qui joue le temps très, très long pour dire, ben maintenant, le seul pipeline qui vous reste, c'est celui qui passe par l'Ukraine et par la Pologne? C'est peut-être ça la prochaine cible. Et ce qui ferait encore plus peur à tout le monde,
ben
c'est...
Oui.
Mettons que c'est pas la Russie, c'est personne qu'on connaît.
C'est encore, là, ça rajoute un inconnu dans cette marmite.
Imaginez que c'est quelqu'un qui veut vraiment qu'il y ait une guerre ou qui profite vraiment de l'augmentation du prix de l'énergie, qui se dit, ben, je vais aller foutre le trouble. Alors, j'ai plus de points d'interrogation pour vous que de réponses à ce moment-ci. Juste pour vous donner l'idée de la complexité, juste pour savoir ce qui s'est passé vraiment, c'est des jours et des semaines. Pour réparer ça, ça pourrait être des mois. Alors, mettez là, vos scaphandres, il faut plonger pour aller voir. Mais on voit à quel point, en fait, cette conscience a tellement de niveaux, combien nous sommes vulnérables ou combien on repose sur de l'infrastructure stratégique. Et ça exige une analyse de sécurité puis de protection. Et il n'y a personne qui est à l'abri de ça, que ce soit des attaques à la bombe comme là, ou même des attaques informatiques. Et là, vous pouvez attaquer des lignes de transport électrique un peu partout. Alors, voilà un peu là où est-ce qu'on en est. Mais imaginez là une fuite de gaz en plein milieu de l'océan, visible de quelqu'un qui est dans un avion à réaction. Ça veut dire que c'est quand même sérieux.
Assez gros. Sinon, Guillaume, j'imagine que tu es tombé de ta chaise quand tu as vu le résultat des référendums qui ont été tenus dans les territoires qui veulent être annexés à la Russie. 4 territoires ukrainiens, 4 élections, 4 victoires. Oh, y a-t-il quelqu'un qui est surpris?
Oui, il y a semaine, en tout cas, il faut leur donner ça. Les Russes, ils savent organiser ça, des référendums. Là, tu fais ça au Québec, puis là, ça dure toute la soirée. C'est-tu le oui?
Ça niaise.
Non. Puis là, il y a un micro pourcentage de différence entre les gens. En Russie, ça va très bien. Il y a une guerre, c'est pas grave, ils font un référendum, et, aux surprises, il y a quand même des variations entre 87% et 93% des gens qui ont voté en faveur de l'annexion avec la Russie, que Vladimir Poutine devrait confirmer potentiellement dans un discours vendredi. Alors, l'expression « score soviétique » s'applique merveilleusement. Et moi, j'en ai observé des élections sur 4 continents. Là. D'ailleurs, faut jamais regarder que le pourcentage. Ça se peut que tout le monde soit d'accord, mais ce qu'on regarde beaucoup, c'est dans quel contexte. Est-ce que tout le monde avait le droit de faire campagne? Est-ce qu'il y avait des médias libres? Est-ce que les deux campagnes étaient également financées? Est-ce que les deux camps étaient présents sur le terrain? Il y avait des fois 2 personnes, mais c'était souvent 2 soldats qui accompagnaient les gens qui votaient pour s'assurer qu'ils votent comme il faut. Alors, on va voir un peu comment ça va. Mais à la fin, Vladimir Poutine peut bien faire croire que tous ces gens-là, maintenant, font partie de la Russie. Les autres pays ont déjà dit, ton référendum fantoche...
On ne le reconnaîtra pas,
puis ça nous oblige une réflexion sur qu'est-ce que la souveraineté. C'est un débat qu'on a beaucoup au Québec, mais essentiellement, est souverain celui dont les autres le reconnaissent. Et c'est pour ça que la reconnaissance internationale est si importante. Viens dire à tout le monde que tu es souverain, mais si personne ne te croit, l'es-tu vraiment? Alors, tous les acteurs occidentaux ont déjà dit, là, nous, on ne joue pas dans ce film-là du tout. Il en reste deux dont l'intérêt là, va être, dont la réponse va être intéressante, la Chine et l'Inde. Et là, à date, on est encore dans le flou et dans le silence. Regardons ce que ces deux géants-là, vous savez, la Chine et l'Inde, c'est une personne sur trois dans le monde, là. Alors, qu'est-ce que ces deux géants-là, traditionnellement alliés de Poutine, mais de plus en plus tannés de cette guerre malmenée, vont dire? C'est ce qu'on surveille d'ici la fin de la semaine.
On va le surveiller. On va probablement avoir l'occasion de s'en reparler. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se parle demain.
Au plaisir.